Nous sommes donc, quelle date? Le 12 mai, je parle pour la caméra, hein, pour les gens qui vont suivre ensuite. C'est le portrait numéro 9 que je vais faire. C'est celui de Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Vous voyez donc qu'il a vécu 56 ans. Approche un peu la caméra comme ça, voilà, je crois que ça ira. Vous voyez sur votre feuille de route que j'ai établi une longue suite de dates pour exprimer clairement donc la biographie de Nietzsche, qui est très importante pour comprendre, disons, sa pensée, le décours de sa pensée, comment ça... Ça évolue avec une maladie qu'il contracte, semble-t-il, assez rapidement dans sa vie, et puis qui évolue souterrainement, et puis qui finalement l'entraînera dans une paralysie générale les 12 dernières années de sa vie. Ça veut dire à l'âge de 44 ans, hein, 44 ans, il sera out, il ne parlera plus. Il sera interné dans un asile psychiatrique à Iéna, chez Binswanger, qui est un grand psychiatre, et puis il ira chez sa mère, et puis chez sa sœur, etc. Et cette maladie, d'où vient-elle? C'est une question. Parce que, les dernières années de sa vie, c'est la démence. Est-ce que son œuvre est mise sous le signe de la folie? Parce que c'est un philosophe qui a impressionné beaucoup de monde, parce qu'il philosophe à coups de marteau, comme il dit. C'est-à-dire pas dans les nuances, pas dans les discussions compliquées avec ses co-philosophes, hein, mais lui, il y va franchement, il dit ce qu'il pense. Alors, naissance en 1844, son père est pasteur luthérien, trois générations de pasteur du côté paternel, deux générations du côté maternel. Voilà, donc c'est vraiment une famille de pasteurs protestants luthériens. Cependant, il prétend qu'il n'est pas allemand. Il est né en Prusse, mais il se voit comme un Polonais, un noble Polonais pur sang, et il se méfie beaucoup de la pensée allemande, de la mentalité allemande, comme vous l'aurez peut-être vu dans un des textes que je vous ai passé. « Mon sang, écrit-il, est parent du sang des prêtres. » Et pourtant, voilà, il se déclare un noble Polonais pur sang. « Dans mes veines, pas une goutte de sang mauvais et surtout pas de sang allemand. » En effet, le nom de Nietzsche existe en polonais. Il s'écrit différemment, N-I-C-Z. Il y avait, il n'y a pas très longtemps, un évêque qui s'appelait Monseigneur Nietzsche. Hein? Alors, Lou Salomé, je vous ai donné la couverture d'un livre de Françoise Giroux sur Lou Salomé. Je prends mes livres, pardon. Lou Salomé, voilà donc, vous avez ça sur votre feuille de route. Elle-même a écrit un livre complet sur Nietzsche. Hein, tout ce qu'elle pense de Nietzsche. Donc elle a connu Nietzsche lorsque Nietzsche avait 38 ans. C'est une femme russe qui a très bien connu, très bien saisi de l'intérieur qui était Nietzsche. Et voilà ce qu'elle dit. En Nietzsche coexistent un musicien remarquable, un esprit libre, un réformateur religieux et un poète inné. Voilà les quatre caractéristiques de Nietzsche selon Lou Salomé. Mais, dit-elle, sa tendance la plus profonde, c'est son instinct religieux. Son instinct religieux. Donc voilà un artiste, musicien, poète. Ce qu'il écrit est vraiment d'une très grande beauté. C'est un des grands poètes de la langue allemande. Il a écrit énormément de poèmes. Et toute son œuvre, surtout certaines parties, certaines périodes de sa vie, c'est de la, pas de la prose, c'est de la poésie. Hein. ainsi parler Zarathoustra, par exemple, c'est un style extrêmement poétique. Musicien, oui, mais il était musicien, il a même composé. On peut trouver des œuvres de Nietzsche, hein, jouées encore aujourd'hui. Un esprit libre, un réformateur religieux. Cet instinct religieux était vraiment en lui. Mais contrarié, cisaillé de contradictions, comme dit Tillyet, hein, c'est un homme cisaillé de contradictions. Son père était un pasteur organiste. Comme d'ailleurs beaucoup de ces pasteurs protestants, c'était des gens cultivés, c'était des gens organistes justement. Wagner, par exemple, avait aussi dans sa famille hein, des pasteurs protestants organistes. Hein. Wagner. Et donc, voilà, cet homme remarquable, semble-t-il, meurt à 36 ans et Nietzsche à 4 ans. Grande douleur pour lui. Grande douleur. Son plus jeune frère également meurt 2 ans après. Et donc Nietzsche vivra entre sa mère et sa sœur. Entre sa mère, dont vous avez le portrait là sur votre feuille de route également, hein, c'est la dame qui se trouve à côté de Friedrich Nietzsche, qui l'a soignée pendant une dizaine d'années, et puis sa sœur Lisbeth. Lisbeth, voilà, une femme un peu problématique au sens où elle admirait énormément son frère, et elle a édité toutes ses œuvres posthumes, mais en faisant des anthologies, en choisissant, et notamment en choisissant des passages très violents. Alors, par exemple, Françoise Giroud, comme vous savez, c'est une femme aussi hein, remarquable, qui a écrit plusieurs biographies, sous la photo d'Elisabeth Nietzsche, elle a commenté « Une pure salope, cette sœur ». Signé Françoise Giroud. « Une pure salope, cette sœur ». Voilà, en effet, le rapport était un rapport d'admiration. Et en même temps, bon, elle a recueilli chez Friedrich Nietzsche, posthume, enfin, certains passages plutôt que d'autres, ceux qui allaient dans le sens de l'agressivité, de la volonté de puissance, etc. Ce qui fait dire, donc, que eh bien, après la mort de Nietzsche, ben, on a exploité son œuvre, par exemple, dans le sens du nazisme. Hein. Et en effet, les archives de Weimar ont été visitées par Hitler, accueillies par Lisbeth Nietzsche, toute fière de montrer les archives de son frère à Hitler. À 14 ans, Nietzsche est aussi un enfant précoce, qui a souffert de manière précoce. C'est un homme qui a beaucoup souffert. D'accidents, voilà, dans sa vie, de maladies. À 14 ans, il entre au gymnase de Pforta. Pforta, c'est un très beau collège que j'ai visité avec des amis, hein, où ont été des gens célèbres comme Novalis, le poète, Fichte, le grand philosophe, les frères Schlegel. Et là, il écrit déjà sa première autobiographie. En 12 jours, il rédige une histoire de son enfance. Alors ça, c'est aussi une caractéristique de Nietzsche, la rapidité d'écriture, et donc l'inspiration. Une fois qu'il a saisi quelque chose qu'il avait à dire, c'est écrit en quelques jours. Et là, eh bien, il se consacre à Dieu. Il fait des vœux, gelübde, il fait des vœux, hein. Voilà, j'ai déjà fait dans ma vie, dit-il à 14 ans, maintes expériences joyeuses et tristes, mais en tout, Dieu m'a conduit sûrement comme un père son faible petit enfant. À 12 ans, j'ai vu Dieu dans toute sa splendeur. Voilà, il a déjà une espèce d'expérience mystique à 12 ans. Hein. À 12 ans, j'ai vu Dieu dans toute sa splendeur. Et voilà, il est prêt à accepter tout ce que Dieu lui donnera. Et déjà, à 14 ans, il dit hein, « Tout ce qu'il me donne, je veux l'accepter avec joie, bonheur et malheur, pauvreté et richesse, et regarder dans les yeux avec audace la mort elle-même. » 14 ans, et il a perdu son père, il a perdu un frère. Donc il sait déjà, d'une certaine manière, ce que c'est hein, la vie. « Qui nous réunira, la mort elle-même, qui nous réunira tous un jour pour la joie éternelle et la béatitude, ô Seigneur bien-aimé, fais luire ta face sur nous éternellement. Amen. » Voilà un texte qu'il écrit à 14 ans. Donc on voit la veine religieuse chez lui est très précoce. Le caractère héroïque aussi est un trait très précoce chez Nietzsche. En effet, comme vous savez, il va faire des études de philologie classique, latin et grec. Il va exceller dans ces langues. Mais déjà, donc, à Pforta, il lit l'histoire de Mucius Scaevola, hein, ce Romain qui a mis sa main dans le feu, etc. Et ses compagnons disaient, oui, mais ça, c'est de la blague, ça n'existe pas. Hein. Nietzsche voulut prouver à ses camarades sceptiques que l'acte de Mucius Scaevola n'était pas légendaire. Il plongea donc sa main dans un poêle allumé et en retira un charbon ardent. Il porta toujours la marque de cet exploit qu'il entretenait et élargissait en lui coulant de la cire fondue pour entretenir sa cicatrice. Il avait renouvelé un haut fait du passé demeuré jusqu'à lui unique dans l'histoire. Voilà, une nature héroïque, une audace. Il excelle dans les langues latines, grecques et autres, dans la littérature antique. Mais déjà à cet âge, il endure de violents maux de tête, tout jeune. Études brillantes à Bonn, avec un certain Ritschl, qui n'est pas le théologien Ritschl, mais qui est un philologue, et qui dit ceci de Nietzsche. Ritschl donc dit, ce professeur de philologie, à son étudiant à 22, 23, 24 ans, « En 39 ans de carrière, j'ai vu se développer sous mes yeux tant de jeunes forces, mais jamais encore je n'ai connu un jeune homme qui fut si tôt et si jeune d'une maturité telle que ce Nietzsche. S'il vit encore longtemps, que Dieu le lui accorde, je prophétise qu'il se trouvera un jour au premier rang de la philologie allemande. Il a maintenant 24 ans. Fort, vigoureux, sain, brave de corps et de caractère, vous direz que je vous décris un phénomène. Eh bien, il l'est. Mais néanmoins aimable et modeste. » Voilà ce que dit son professeur d'université à Bonn, quand il a 24 ans. Et donc, après ses études à Pforta, à Bonn, eh bien, il se fait engager comme professeur de philologie classique à l'université de Bâle. Et dans cette mouvance, il rencontre Richard Wagner et Cosima Liszt, dont je ne vais pas parler parce que c'est toute une histoire compliquée. Mais Wagner, donc, il en est fou. Hein. Il est passionné par Wagner, par la musique de Wagner, lui qui est musicien, lui qui est poète. Donc Wagner fait tous les arts en un seul, l'opéra, hein, avec tous les arts en un seul, et voilà, il est fasciné par Wagner. Mais après, il écrira contre Wagner. Cette amitié va complètement se retourner, hein. Et il va l'insulter de tous les termes. Il concevra contre lui une jalousie immense. Alors il semble bien que ce soit aussi un trait de caractère de Nietzsche, ça, la jalousie. Il écrira plusieurs fois contre Wagner. Il se liera ensuite avec un autre musicien, Peter Gast, c'est un pseudonyme d'un nom que je n'ai pas retenu. Et donc voilà, il préférera Peter Gast à Wagner. Ben, Peter Gast, on n'en entend pas beaucoup parler, hein. Mais Wagner, oui, mais il était, semble-t-il, jaloux de lui. Et Gide, André Gide, qui a lu beaucoup Nietzsche, qui est un peu même un disciple, si on veut, hein, eh bien, dit de Nietzsche qu'il est devenu fou par jalousie. Et par jalousie de qui? Du Christ. Nietzsche, selon Gide, est devenu fou de jalousie par rapport au Christ. Voilà, alors il fait des travaux de philologie, il écrit une thèse qui s'appelle donc « La naissance de la tragédie ». Et bon, il lit les auteurs grecs et les auteurs latins comme ça, comme le journal, hein, même plus facilement. Et il apprécie, il jouit vraiment de cette poésie. Il n'y a rien de plus intéressant pour lui, de plus passionnant que de lire Eschyle ou de lire Horace. Il apprécie ça. Les autres, ils font des efforts pour comprendre ce que ça veut dire. Lui, c'est évident. Il en goûte même toute la poésie. Il écrit donc sur la naissance de la tragédie. Et là, il oppose Apollon et Dionysios. Apollon, le dieu de la raison, de la clarté, de la beauté, de l'équilibre, etc. Et Dionysios, au contraire, le dieu du vin, de l'exubérance, de l'excès, de la passion. Eh bien, il trouve dans la tragédie grecque, hein, cet antagonisme très intéressant, hein, des Grecs rationnels et en même temps très conscients de toutes ces pulsions qui vivent dans l'homme, et la tragédie grecque, eh bien, met en scène justement cet antagonisme. Il fait la connaissance aussi, et ses amitiés sont très importantes hein, pour Nietzsche. Les amitiés sont très importantes, même si après elles se retournent parfois, pas toujours. Hein. Un des plus fidèles, ce sera Overbeck. Donc il fait la connaissance de Jacob Burckhardt, qui est un historien de l'art, spécialiste de la Renaissance italienne. Il fait la connaissance de Paul Rey, qui est un psychologue qui devance un peu Freud, etc., mais qui est un positiviste, hein, qui veut réduire toute la psychologie humaine à des données biologiques, instinctuelles. Et Freud, bon, Nietzsche gardera un petit peu de cette tendance hein, à souligner la force des instincts et leur valeur, en fait. Overbeck, c'est un professeur de théologie à Bâle, Franz Overbeck, qui sera un ami fidèle, archi-fidèle de Nietzsche. C'est lui qui ira le chercher à Turin lorsqu'il sera vraiment dans ses crises de folie. Et c'est un professeur de théologie à Bâle, mais qui dit qu'il est athée, qu'il est devenu athée. Voilà, il donne cours. Je ne sais pas s'il le dit à tout le monde, mais en tout cas, voilà, il dit « j'enseigne la théologie, mais moi je suis athée ». Sa femme Ida sera aussi une grande amie de Nietzsche qui va lui faire beaucoup de bien, par son accueil, ses paroles, etc., par sa patience, etc. Alors, il y a quelque chose qui se passe pendant la guerre franco-allemande. Il sert comme volontaire, comme infirmier volontaire à cette guerre, et cette guerre ne lui porte absolument pas chance, puisque c'est à partir de là qu'il tombe vraiment malade. Il avait déjà des maux de tête, etc., mais là, il tombe malade, et on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors, je me fie beaucoup à un auteur qui s'appelle Karl Jaspers. Karl Jaspers pour la question de Nietzsche et de sa maladie, parce que Jaspers était un psychiatre, un médecin psychiatre et un philosophe qui a écrit de la philosophie, mais donc qui était très au courant de la psychiatrie et qui a étudié une centaine de pages sur la maladie de Nietzsche. Hein. Essayer de comprendre. Mais je dirais que tout son diagnostic met la littérature de Nietzsche avant 1888 à l'abri de la folie. Bon, il y a des choses peut-être qui précèdent, mais ce n'est pas pour lui, hein, c'est l'œuvre d'un génie qui deviendra fou, mais ce n'est pas l'œuvre d'un fou si on veut. Hein. Alors Jaspers dit ceci, je lis un petit passage. Après une dysenterie grave contractée durant la guerre, en servant comme infirmier, Nietzsche retrouve la santé, mais de temps en temps reviennent des douleurs d'estomac. En 1873, les troubles deviennent fréquents et nombreux, surtout de violents maux de tête, sensibilité douloureuse à la lumière, sentiment de totale prostration. Des états nauséeux le retenaient toujours plus souvent au lit. Quelquefois, il perdait conscience pendant un certain temps de douleur. La myopie, qui existait depuis sa jeunesse, s'accompagnait de continuelles douleurs oculaires. En dehors des attaques, il souffrit longtemps de céphalées continuelles. Il écrit même une lettre d'adieu à une amie, hein, instamment. Il dit « Je vais mourir, je t'écris ma dernière lettre hein, » en 1879. Voilà. Alors, quelle était cette maladie? En tout cas, c'était beaucoup de douleur parce qu'il écrit lui-même « Pour ce qui est de la souffrance et du renoncement, la vie de mes dernières années, écrit-il en 1880, peut se comparer avec celle des ascètes de n'importe quel temps. Les saints et les ascètes ont pu faire toutes les pénitences qu'ils voulaient, eh bien je suis à leur hauteur au niveau de la souffrance. » Alors, sur le poil de Nietzsche, il y avait toutes sortes de mixtures médicamenteuses qu'il se préparait lui-même, hein, nous rapporte Overbeck, et qui étaient un peu suspectes aussi. Est-ce qu'il a pris des drogues? Est-ce qu'il a pris des cocktails qu'il ne fallait pas? Bon, vous savez que parfois les auteurs utilisaient hein, cela pour se donner de l'exaltation et tout, Baudelaire ou d'autres. Bon, là je crois qu'il se soignait, mais se soignait-il bien? Ça, on n'en sait trop rien. Personne ne connaît la vraie nature de la maladie de Nietzsche. Cependant, un auteur comme Goldschmidt, qui introduit ici « Ainsi parlait Zarathoustra hein, », donc cette grande œuvre, « Ainsi parlait Zarathoustra », Goldschmidt, eh bien, il n'hésite pas beaucoup Et il dit, voilà, c'est l'hypothèse d'une syphilis. D'une syphilis qu'il aurait contractée pendant la guerre. Pendant la guerre, donc assez jeune. Alors la question de cette syphilis, c'est qu'en effet, elle dure longtemps avant d'arriver, je dirais, à sa phase finale, mais la phase finale, d'habitude, est moins longue. Elle ne dure pas 12 ans. Hein. Mais Goldschmidt lui dit, sur la folie de Nietzsche, on a dit trop de choses fantaisistes. En réalité, Nietzsche, dans une maison de passe, a tout simplement contracté la syphilis, comme Maupassant, Heine, Baudelaire, et il est mort, comme eux, d'une paralysie générale. Maupassant, ben lui aussi, hein, c'est presque la même date que Nietzsche. Eh bien, il est né en 1850, mort en 1893, un grand auteur, voilà. Mais en 1887, il commence à avoir des hallucinations et puis des délires, on l'interne, mais la dernière phase dure un an et demi. Ici, ça dure 12 ans. Alors ça, c'est plutôt curieux. Selon Jaspers, il y a certainement un facteur biologique. Un facteur biologique qui pourrait être l'infection, qui pourrait être voilà, une intoxication d'un certain type à la longue. Mais le facteur biologique est évident, ce n'est pas une schizophrénie endogène, ce n'est pas quelque chose qui porte en lui-même de manière irréversible, même s'il a peut-être des antécédents hein, qui l'inclinent à ceci ou à cela. Voilà, et donc lui dit « Ce qui est arrivé à Nietzsche depuis 1880 doit provisoirement demeurer indéterminé », dit Jaspers. Il reconnaît toute une série de facteurs, bien honnêtement, mais il dit « c'est... » Non, il ne faut pas mettre tout de suite le doigt sur cette syphilis, comme d'autres le font. Alors, il rencontre Lou Andreas Salomé. En quelle date ? À quelle date ? C'est très important. Donc, lorsqu'il a déjà dû renoncer à son enseignement, il est professeur à l'université à 25 ans, 1869. En 1879, eh bien, il doit renoncer à l'enseignement. Après déjà un congé de 2-3 ans, il doit renoncer à l'enseignement, il ne peut plus enseigner, c'est trop difficile. Et donc, il commence une vie errante. Il va ici et là, chez des amis, visite l'Italie et tout ça, bon. Et là, il rencontre, eh bien, Lou Salomé, une femme russe. Lui a 38 ans à ce moment-là. Et cette femme russe, c'est une femme absolument remarquable, très énigmatique aussi, hein, sur laquelle on a écrit plusieurs bouquins. Elle-même a écrit plusieurs bouquins, dont celui-là hein, que je vous ai indiqué sur Nietzsche lui-même, hein, un bouquin très intéressant, où je crois qu'elle a une intuition de Nietzsche assez remarquable. Mais elle a aussi été une connaissance, une amie, et même une espèce de séductrice hein, universelle, de qui ? De Paul Rey, de Nietzsche, de Rilke, de Freud. Elle était au premier congrès de psychanalyse, et en même temps, elle ne se donnait à personne. Ce qui rendait évidemment les hommes un peu fous, hein, parce qu'elle était une séductrice incroyable, tout le monde était captivé. Quelqu'un disait, hein, lorsque Lou Salomé rencontre un homme, cet homme, 9 mois après, donne naissance à un livre. Tellement elle remuait les idées de tous ces types, elle qui se mettait alors à penser sur ce qu'était l'homme, la femme, l'humanité, tout ça. 9 mois après, paf, naissance d'un livre. Mais pas naissance, pas d'autre. Mais finalement, elle a rencontré un certain Andreas. Elle s'est mariée avec lui, elle l'a épousé, et il n'y a jamais eu aucune faille dans leur vie. En 1937, elle est décédée, et la Gestapo à Göttingen est venue chercher toute sa bibliothèque, parce qu'elle était psychanalyste, ça veut dire adonnée à la science juive, donc c'était comme une sorcière. On est venu chercher toute sa bibliothèque, et on l'a entreposée en vrac hein, dans les caves de la police, moi je ne sais pas, et puis on a examiné ça de près pour voir s'il n'y avait pas des choses suspectes. Donc Lou Andreas Salomé avait vraiment compris Nietzsche. Et en parlant avec lui, ben elle suscitait hein, sa créativité littéraire, sa créativité philosophique. Et il s'est mis à écrire, sous l'influence de cette rencontre certainement, eh bien, le gai savoir et ainsi parler Zarathoustra. Hein? C'est certainement... mais elle, je ne vais pas dire qu'elle n'y était pour rien, mais elle suscitait, disons, hein, elle faisait germiner des pensées tellement elle comprenait bien le bonhomme. Et elle lui dit, mais alors c'est ça, mais donc tu penses ça, et dans ce cas-là, c'est ceci. Elle conduisait, si on veut, elle faisait accoucher justement la pensée hein, de ces personnages. Rilke, par exemple, a une correspondance avec elle tout à fait remarquable aussi. Freud dit d'elle qu'elle avait une intelligence redoutable. Et voilà, donc c'est avec Lou Salomé que il a compris certaines choses de son propre génie. Mais alors il a voulu s'en séparer. Il a voulu s'éloigner d'Eden parce que ça n'allait pas. À la fois elle le comprenait, mais à la fois elle ne voulait pas entrer dans une intimité avec lui, mais lui ne voulait pas non plus. Et d'ailleurs Rilke voulait, mais elle ne voulait pas. Bon, enfin, c'était tellement compliqué qu'il a dit bon, c'est pas possible. Il s'est séparé d'elle, comme il s'est séparé d'autres amis, hein, Wagner, etc. Les fidèles, c'était Peter Gast et Overbeck. Alors, il a écrit « Ainsi parlait Zarathoustra ». Encore un petit mot sur Lou Salomé, un auteur ici assez spécialisé dans Nietzsche, Peters, un Américain, a écrit « Mon épouse, ma sœur ». C'est donc un verset du Cantique des Cantiques hein, qui présente l'épouse comme une sœur, à laquelle bien sûr on ne touche pas, mais c'est quand même mon épouse. C'est une belle biographie de Lou Andreas Salomé, et ce même Peters a écrit donc Nietzsche et sa sœur Elisabeth. Hein. Je crois qu'il est un peu plus respectueux que Françoise Giroud, mais enfin, il essaie quand même de dire la vérité. Alors, ainsi parlait Zarathoustra. Nietzsche a écrit ce volume, qui a quand même 450 pages, hein, qui comporte 4 parties, un long prologue à une première partie, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième, qui est conçu un peu comme un évangile. Comme un évangile. Donc, Zarathoustra est un personnage qui vient et qui commence, comme Jésus, à raconter des paraboles, à faire des prophéties, à avoir un comportement un peu prophétique, etc. Et donc, dans un style extraordinaire, hein, magnifique, bizarre, hein, avec, bien sûr, on n'est pas du tout dans la réalité, hein, on est dans l'évocation symbolique. On est parti complètement dans la poésie pure. On est dans les cimes de la poésie. Et en même temps, quand vous lisez ça, eh ben vous êtes sous le charme de cette écriture. Alors, j'ai noté les dates auxquelles il a écrit ces pages. La première partie, entre le 1er et le 10 février 1883, en 10 jours. Il vous écrit 120 pages. Entre le 26 juin et le 6 juillet, paf, la deuxième partie. Entre le 8 et le 20 janvier 84, la troisième partie, et puis la quatrième, le mois de janvier-février 85. Donc une rapidité d'écriture extraordinaire. Alors, il dit lui-même qu'il est inspiré. Voilà, il est inspiré. Hein, il se promène solitaire, il souffre, il est seul, etc. Et puis tout à coup, ah, Zarathoustra. Il se met à écrire, et voilà comment dans Ecce Homo, c'est une autobiographie de plus, qu'il écrit, où il explique comment il a publié ses œuvres, à propos de Ainsi parlait Zarathoustra. Il décrit parfaitement cette inspiration des grands poètes antiques, des époques fortes, inspiration qu'il a saisie, qui lui survient dans les moments favorables. Alors voilà comment il décrit cette inspiration, hein. C'est assez remarquable. On ne peut en fait se refuser qu'avec peine à l'idée d'être purement incarnation de force surpuissante, purement porte-voix, purement médium de ces forces surpuissantes. Le concept de révélation dans le sens que soudainement quelque chose vous devient visible, audible, avec une sûreté et une finesse indicibles, quelque chose qui émeut l'homme dans son fond le plus profond et le traverse et le renverse. Cela seulement décrit ce fait de l'inspiration. On entend, on ne cherche pas. Il entend ce qu'il doit écrire. Il ne cherche pas. On prend, on ne demande pas qui est-ce qui donne. Comme un éclair, une pensée jaillit avec nécessité, sans hésitation sur la forme. Je n'ai jamais eu à choisir. Ça, pour un écrivain, c'est extraordinaire. Il dit, je n'ai jamais eu à choisir une formule plutôt qu'une autre. Elle venait, elle lui était donnée. Un ravissement dont la tension immense se dissout parfois dans un flot de larmes. Ravissement dont le pas tantôt involontairement se précipite, tantôt devient lent. Un être parfait, au-delà de soi, avec la conscience la plus distincte, d'innombrables frémissements et ruissellements délicats qui vont jusqu'à la pointe des pieds. Comme dans une tempête de sentiments de liberté, d'inconditionné, de puissance, de divinité. Le caractère involontaire de l'image, du symbole, est ce qui est le plus étrange. On ne sait plus ce qui est image, ce qui est symbole, ce qui est réalité. Voilà comment il écrivait, sous cette inspiration. En quelques semaines, il a écrit ce livre qui a tellement influencé, a marqué la littérature et la philosophie, Ainsi parlait Zarathoustra. Alors, Nietzsche et les femmes. Je vous ai un peu parlé de Lou Andreas Salomé. Bon, il avait été sous son charme, ça lui a inspiré cette « Ainsi parlait Zarathoustra », si on veut, lointainement. Mon père est mort à 36 ans. Il était délicat, aimable et morbide, comme un être qui ne pouvait que passer. À l'âge même où sa vie déclina, la mienne aussi se mit à décliner, à 36 ans. Je tiens pour un grand privilège d'avoir eu un tel père. Il l'a connu 4 ans. Les paysans devant qui il prêchait disaient de lui « C'est à cela que doit ressembler un ange. » Quand je cherche mon plus exact opposé, l'incommensurable bassesse des instincts, je trouve toujours ma mère et ma sœur. Me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine. Vous voyez qu'il écrit cache, hein ? Et voilà, il n'y a aucune femme qui soit vraiment entrée dans sa vie. Je n'ai jamais eu aucun désir. Qui donc, au terme de sa 44e année, peut se vanter de n'avoir jamais recherché les honneurs, les femmes ou l'argent ? À part de rares exceptions, Cosima Wagner, la femme de Wagner à cette époque, Lou Salomé, Malvida von Meisenburg, aucune femme n'apparaît dans la vie de Nietzsche. Et il est certain qu'ils ne sont jaguère ou mariage, dont il dit le plus grand mal, évidemment. D'ailleurs, les personnages féminins n'ont guère de place dans les œuvres de Nietzsche. S'il parle parfois des femmes, en général, de la femme, de ce qui est weiblich, féminin, c'est dans le sens d'une insulte. Aucune figure féminine, par exemple, ne joue un rôle quelconque dans « Ainsi parlait Zarathoustra ». Il n'y a aucune femme qui apparaît dans cet ouvrage. Et pourtant, dit Lou Salomé, Nietzsche semble connaître quelque chose de la femme, mais il le connaît de l'intérieur, dit-elle, parce qu'il porte en lui de féminin. Il y avait dans son tempérament quelque chose de féminin, nous dit-elle, mais porté à un degré de grandeur incomparable. Voilà, Lou Salomé avait senti quand même ce côté. Dans le Gai Savoir, au paragraphe 60, je ne vais pas vous le lire, mais il parle de les femmes et leur opération à distance. Les femmes et leur opération à distance. C'est probablement une allusion à Lou Salomé, qui, à distance, eh bien, lui a inspiré bien des choses. Alors, il lit Dostoïevski en 1887. Eh bien, il est vraiment effrayé par ce Dostoïevski. Et il se dit, mais enfin, ce type est complètement délirant. Il trouve que ces romans russes, c'est vraiment le rendez-vous de toutes les pathologies. Et d'ailleurs, il en parlera, comme je vous le dirai, à propos de Jésus. Donc, il lit Dostoïevski, mais il n'aime pas du tout. Et ses derniers écrits, ceux de 87-88, sont de plus en plus agressifs, de plus en plus violents, hein, de plus en plus blasphémateurs. L'Antéchrist, c'est de ça que je vous ai donné quelques extraits. Maintenant, je prends un petit peu la pensée de Nietzsche par rapport à Jésus, par rapport à la religion et à Jésus. D'abord, ce qui est curieux, c'est que il dit, une de ses grandes idées, c'est que le christianisme n'est pas fidèle au Christ. Le christianisme, c'est Saint Paul, et c'est tout ce qui a suivi, et ce sont les disciples qui ont voulu venger Jésus. Ce sont les hommes du ressentiment qui suivaient Jésus sans très bien le comprendre, et quand il est mort sous la croix, ils ont dit « Non, mais ça ne va pas, ça. Hein? » Et alors, ils ont retransformé l'évangile de Jésus à leur sauce, hein, Saint Paul principalement, pour venger Jésus. Et donc, pour lui, le christianisme n'est pas du tout fidèle au Christ. Et Nietzsche, il est contre le christianisme, mais contre le Christ aussi. Il est contre les deux. Hein. Alors, il admire, il a un certain respect, vénération pour Jésus, mais aussi, il a des paroles blasphématoires, et voilà, il le rejette, il le méprise à certains moments. Et donc, Nietzsche est à la fois contre l'un et contre l'autre. Ce qui est vil et méprisé aux yeux du monde, voilà ce que Dieu a choisi, et bien ça c'est vraiment lamentable. Hein? C'est lamentable. Il y a cet air de noblesse, hein, cet air de grandeur, cet air de supériorité que Nietzsche a toujours exalté et qui ne rencontre pas dans le christianisme et non plus en Jésus. En fait, le christianisme c'est une révolte des Chandala contre l'aristocratie, hein, des hors-castes, des sans-castes contre l'aristocratie. C'est ça l'origine du christianisme. Il est une morale du ressentiment qui résulte d'un nom opposé à la morale aristocratique. Donc cela est dû beaucoup à Saint Paul. Hein. Jésus n'a manifesté une grande indifférence par rapport au dogme, par rapport au culte, par rapport aux prêtres, par rapport à la théologie, par rapport à la morale, et ne retrouve pas du tout ça hein, chez Saint Paul et dans l'Église. Le Christ était au-dessus de tout ça. Et pourtant, dans un des derniers textes de l'octobre 1888, il y a ce texte que je vous ai aussi reproduit, hein, où il dit que il lui est permis de faire la guerre au christianisme parce qu'il a tout reçu du christianisme. Et que les chrétiens qu'il a connus sont des chrétiens sans faille, qui n'a rien à leur reprocher, qu'il a reçu énormément de bien de ces chrétiens. Curieux. Alors, le type de Jésus. Eh bien, à l'époque, avec Reimarus, avec Lessing, avec ces gens-là, on est entré dans l'historico-critique. Hein. On travaille les textes, on veut les situer historiquement, voir les couches rédactionnelles, etc. Donc on fait un travail scientifique sur la Bible. Bon, ça gêne certains, parmi les chrétiens, mais aussi parmi les non-chrétiens, qui ont commencé à faire une parodie de la Bible. Ben, on rigole de tout ça. Voilà, maintenant, cette Bible, hein, on nous a dit que c'était des légendes, ben, c'est bien vrai, ben, considérons ça comme des légendes et pas plus. Hein. Et il y a des gens qui se moquent de la Bible. On n'avait pas beaucoup fait ça avant. Hein. On l'avait critiqué. Spinoza, dans son traité théologico-politique, hein, avait quand même un peu secoué les fondements de l'Ancien Testament, Reimarus du Nouveau Testament, etc. Mais on ne s'était jamais attaqué de manière blasphématoire à la Bible. Eh bien, il y a toute une vague d'écrivains qui le font maintenant, hein, qui ne se gênent plus. Bauer, Bruno Bauer en particulier, et puis Marx, et puis Engels, tous ces gens-là, prennent des thèmes de la Bible et ils rigolent. Voilà, c'est comme ça qu'on traite la Bible. Et puis alors, il y a une autre phase qui est aussi un peu plus sentimentale que l'historiocritique et qui est une espèce d'exégèse lyrique. Voilà, bon, ben, c'est vrai, il y a toutes ces sciences et tout, mais enfin, c'est un peu fatigant. Hein. Rire de la Bible, non, on veut quand même pas rire de la Bible, mais on va reformuler les évangiles à sa manière, un peu de manière poétique, un peu de manière psychologique, etc. Et Renan, par exemple, eh bien, avait dit de Jésus qu'il était un génie et un héros. Voilà, on le resitue, hein, avec de nouveaux termes, quoi, un génie intellectuel ou politique ou poétique, etc. Enfin, une exégèse lyrique, si on veut, une exégèse à partir du sentiment. Eh bien, Nietzsche se met un peu dans cette veine. Alors lui qui est un philologue hors pair, qui connaît l'hébreu, je ne crois pas, mais le grec et le latin parfaitement, et donc toute la tradition, il peut la lire. Il n'a fait aucune étude d'exégèse. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas fait la théologie, il a fait de la philologie. Eh bien, il reconstruit, voilà, comme un poète, ce qu'il lit dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'il dit finalement ? Eh bien, que Jésus est le grand symboliste. Voilà, Jésus est le grand symboliste. Il n'essaie pas d'étudier Jésus de manière, je dirais, entre guillemets, scientifique ou sérieuse ou philologique, lui qui avait les outils, historiques aussi. Non, il cherche à reconstruire le type psychologique, intuitivement, le type psychologique de Jésus, en s'appuyant sur voilà, une espèce de Einfühlung, de connaissance intérieure, d'empathie. Et pour lui, donc, ce Jésus est un saint anarchiste. J'ai indiqué là les petites les notes qui l'indiquent. Un saint anarchiste, un anti-héros, un idiot, un décadent et un non-violent. Voilà le portrait de Jésus selon Nietzsche. Alors, un saint anarchiste. Eh bien, Jésus, oui, en effet, le soulèvement dont il est l'instigateur, c'est un soulèvement contre l'Église juive. C'est une insurrection contre la tyrannie de la caste sacerdotale et de la caste privilégiée des pharisiens. Voilà comment il voit Jésus. Ce n'est pas tout à fait faux, mais dire que ce n'est que cela... Bon. Jésus a incité le bas peuple à se soulever contre l'ordre établi. Et ce, dans un langage qui aujourd'hui, c'est ce qu'il dit lui-même, Jésus a écrit dans un langage qui aujourd'hui conduirait son auteur en Sibérie. Allusion très claire à Dostoïevski, qu'il est occupé à lire. Le langage de Jésus l'aurait conduit au goulag. Voilà. Renan a dit donc que le type de Jésus, il était un génie et un héros. Eh bien, d'après Nietzsche, ces deux notions sont les plus incongrues qui soient pour s'appliquer à Jésus. Il n'est ni un génie, ni un héros. Il est au contraire un idiot. Et là, évidemment, il fait allusion, sans doute, à Dostoïevski, au prince Michtin de Dostoïevski, dans l'idiot. Et pas du tout un génie, et un anti-héros. Pourquoi ? Il est incapable de résister au mal. Il pardonne le mal, voilà. Il dit pas non. Ne résiste pas aux méchants. Les vrais instincts virils ne se sont jamais éveillés en Jésus. Il est resté un adolescent à peine pubère, peut-être pris par une espèce de névrose épileptoïde. Voilà ce qu'il invente, quoi. La prédication de Jésus atteste une vraie pauvreté de pensée. Ce que Spinoza trouvait magnifique, que Jésus parvenait à dire des choses extraordinaires dans un langage simple, pour Nietzsche, non. Pauvreté de pensée, une nature à la François d'Assise, le pauvre, névrotique, épileptique, visionnaire. Voilà, il charge Jésus de toutes ces indications. Jamais le moindre souffle de science, de goût, de discipline intellectuelle, de logique n'a effleuré ce saint idiot. Évidemment, avec Nietzsche, on entend des mots un peu durs. Mais c'est un idiot au milieu d'un peuple très malin. Alors comment est-ce que cet idiot va s'en tirer, puisqu'il y a plein de types malins autour de lui? Eh bien, il fuit dans l'insaisissable. Ça, c'est son truc à Jésus. Il fuit dans le symbolisme. Hops, il lance des paroles et des mots qui veulent tout dire et rien dire, qui ne révèle pas vraiment une logique, une controverse, mais qui lui permet de, voilà, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, il a trouvé l'astuce, mais ça ne veut rien dire, selon Nietzsche. Il fuit dans l'insaisissable. Pour cet antiréaliste qu'est Jésus, aucune parole ne doit être prise à la lettre. Ce qu'il dit n'est jamais au premier degré. C'est pas faux non plus, pas faux non plus, mais dire qu'il n'est pas malin et qu'il ne sait pas répondre aux questions qu'on lui pose, c'est un peu exagéré. C'est un décadent. Alors là, Voilà ce qu'il écrit. Hein. « Ce monde étrange et malade, cette singulière société dans laquelle nous introduisent les évangiles, cours des miracles pour, selon lui, hein, semble tiré d'un roman russe. Là où toutes les névroses se donnent rendez-vous. Trouble mental, penchant antisocial, pessimisme. Ça, selon lui, c'est le milieu évangélique autour de Jésus. Nietzsche déplore même, explicitement, hein, que Dostoïevski, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait su être sensible au charme poignant d'un semblable mélange de traits sublimes, morbides et puérils, n'ait pas vécu dans l'entourage du plus intéressant des décadents, Jésus. C'est dommage que Dostoïevski n'était pas à cette époque, hein. Ça lui aurait plu d'être avec tous ces malades, dont lui n'est pas Nietzsche, évidemment, hein. Les disciples n'ont rien compris à Jésus, donc ils transposent l'évangile dans leur propre vulgarité et ils font de la suite de Jésus une vengeance, un ressentiment contre ce qu'on a fait à Jésus. La propagande chrétienne ensuite a introduit les notions de jugement dernier, d'antagonisme, de résistance à la société, de culpabilité, de péché. Nietzsche se refuse à inscrire ce fanatisme dans le type de Jésus. Jésus était un non-violent. Il ne se défend pas, il n'attaque pas, il tend la joue. Il interdit à ses disciples de le défendre. La bonne nouvelle est justement qu'il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Que le royaume des cieux appartient aux enfants. Aux enfants. Voilà, dans cette ligne, Nietzsche tend à rapprocher Jésus du bouddhisme. Dans sa naïveté, Jésus ne se doute même pas à quel point ses discours pourront plus tard semer la discorde. Pour Jésus, la mort n'était pas une chose importante, n'était pas la chose principale. Jésus souffre et meurt sans révolte. Le paragraphe 35 que je vous ai donné là de l'Antéchrist, hein, décrit un Jésus qui, voilà, il est sur la croix, voilà, c'est bien quoi, hein. C'est bien comme tout le reste. Hein. Il meurt sans révolte, sans hostilité, il est doux, il est résigné. Il ne fait pas un geste qui puisse détourner de lui la condamnation. Bien plus, il la provoque par son inertie. Alors voilà le portrait de Jésus par Nietzsche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des penseurs aussi sérieux que Scheller et que Jaspers, qui ont tous les deux écrit sur Nietzsche, ne sont pas du tout d'accord avec cette lecture. Ils disent que ce n'est pas, intellectuellement, ce n'est pas conforme, hein, aux évangiles. Ils ne disent pas que c'est une malhonnêteté intellectuelle, mais ils disent que c'est une lecture fausse. Les évangiles ne disent pas du tout ça. Hein. Il y a des traits intéressants. On peut prendre quelque chose, peut-être. Mais Max Scheler, dans son brillant essai « L'homme du ressentiment », justement, puisque le chrétien, c'est un homme du ressentiment, Max Scheler a écrit, comme d'ailleurs dans son autre livre sur le sens de la souffrance, puisque Nietzsche en parle, il retourne à hominem ses propres armes contre Nietzsche, l'adversaire. Il dit non, c'est Nietzsche qui se décrit lui-même comme ça finalement, hein, qui se décrit lui-même. Et Jaspers s'étonne de la combativité de Jésus au contraire, car Jaspers, qui n'est pas non plus un chrétien absolu, hein, loin de là, il n'est pas contre, c'est un homme vraiment ouvert, me semble-t-il, il s'étonne de la force de Jésus, de sa combativité, cet ami d'Alice Deschamps bien sûr. Mais il est courageux aussi jusqu'au bout et il récuse fortement le Christ bêlant de Nietzsche. Le Christ bêlant de Nietzsche, non, ça c'est pas du tout le Christ, c'est pas le vrai Christ. La mort sur la croix. Eh bien voilà, il y a ce paradoxe effrayant, hein, de Jésus qui meurt en croix de manière inattendue, aussi rapide qu'imprévue, qui place les disciples devant l'énigme, mais finalement, qui était Jésus ? Jésus leur a été retiré avant qu'ils ne sachent finalement qui il était. Alors pour les chrétiens, c'est la résurrection qui va continuer à dire qui était Jésus. Mais si on ne croit pas à la résurrection, on se dit, les disciples voilà, sont devant une énigme. Hein. Notre maître, qui était-il finalement, puisqu'il a terminé comme cela. Mais voilà, les disciples n'avaient pas ce symbolisme naïf, etc. Ils ont transformé de la religion de Jésus en une religion de la vengeance. Du ressentiment. Et donc, le Nouveau Testament est habité par une terrible arrière-pensée Tous ceux qui souffrent sont divins et eux seuls. Et on va rassembler, grâce à cette bonne nouvelle, hein, une force immense, tout ce qui était réprimé et méprisé. Voilà, selon Nietzsche, le christianisme. Tout ce christianisme infidèle à Jésus, eh bien, au fond, n'est que le point culminant de la religion d'Israël, qui atteint ainsi son but ultime de rancune millénaire contre le monde. Le judaïsme est une rancune millénaire contre le monde. Il y a un peu son antisémitisme, évidemment, qui apparaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche, par exemple, eh bien, par rapport au mal, à la souffrance, il dit qu'il ne faut pas en faire un drame. Hein. Le mal fait partie de la vie. Et la vie est plus forte. C'est tout. Il ne faut pas s'occuper du mal. On doit supporter cette inévitable alliance avec le mal, si on veut vivre. C'est pourquoi Nietzsche n'argumente jamais contre Dieu à partir du mal. Ça, c'est intéressant. Il ne reproche jamais à Dieu d'avoir créé un monde qui n'était pas parfait, ou bien qu'on doit souffrir, ou qu'on doit mourir. Alors, il trouve que là, c'est un argument vulgaire contre Dieu. Un argument vulgaire contre Dieu. On peut avoir toutes sortes d'arguments, évidemment, mais lui dire qu'il a créé le mal, ben, ça c'est ridicule, quoi. Il ne faut pas faire ces reproches à Dieu. C'est normal, le mal, la vie. Ça fait partie de la vie. Dans son discours contre Dieu, il se prive volontairement et systématiquement d'une des armes les plus éprouvées de ceux qui luttent contre la religion chrétienne. Dire que Dieu ne fait rien pendant que les hommes souffrent, ça c'est l'argument de Voltaire. Après le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne, Voltaire a écrit un grand pamphlet, « Vous voyez, Dieu ne s'occupe pas de vous, puisqu'il a laissé faire ce tremblement de terre. » Et Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, eh bien, lui a répondu, en disant non, tremblement de terre, il devait arriver. Ce qui est dommage, c'est que tous les hommes veulent se regrouper dans des villes parce qu'ils sont avides de science et d'argent et de progrès, qu'ils restent tranquillement chacun dans leur campagne. Et quand il y aura un tremblement de terre, ça détruira un petit village et puis c'est tout. Argument de Rousseau, l'homme, le bon sauvage, ne doit pas vivre dans les grosses villes. Comme ça, il n'y aura pas toutes ces catastrophes. Mais lui aussi se moque de l'argument donc, de Voltaire, qui est d'ailleurs un argument de mauvaise foi, sans doute. Voilà, ambivalence du rapport de Nietzsche à Jésus. À la fois, il oscille entre les extrêmes du mépris et du respect. Entre la répulsion et l'attirance. Nietzsche se sent lié à Jésus par une affinité souterraine. C'est un réformateur religieux, disait Lou Salomé. Et en même temps, et comme lui d'ailleurs, il se méfie du langage. Il recourt aux paraboles, aux symboles. Il est en but à l'incompréhension. Il se dit au-dessus de l'histoire. Jésus a coupé l'histoire en deux. L'ère chrétienne commence à l'an zéro. Eh bien, Nietzsche aussi veut diviser l'histoire en deux. Il y aura l'avant Nietzsche et l'après Nietzsche. Ça c'est clair, vous l'avez lu dans l'avant-propos de l'Antéchrist, Voilà. Donc, l'antéchrist, d'ailleurs, il faut le prendre dans son double sens de celui qui s'oppose à et celui qui remplace. L'antéchrist, c'est celui qui vient à la place du Christ, selon la préposition « anti » en grec, qui veut dire à la fois « contre », mais aussi « à la place de ». Et je termine avec cette citation avant de lire quelques passages des textes que je vous ai donnés. « Le Christ n'a pas eu de disciples, pas un seul. Jésus est l'unique chrétien. » Il n'y a jamais eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix. Ça, c'est le style de Nietzsche, très, très significatif. Il n'y a jamais eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix. Nietzsche, donc, selon Gide, eh bien, nourrissait une jalousie incroyable vis-à-vis du Christ et c'est ça, selon Gide, qu'il a fait chavirer. Alors, dans les quelques textes que je vous ai donnés, qui sont des textes de la toute dernière période de sa vie, vous avez le premier, là, tiré des fragments posthumes. « Si je fais la guerre au christianisme, cela ne m'est permis que parce que je n'ai jamais rien reçu de douteux ou de triste de ce côté-là. Bien au contraire, les êtres les plus estimables que je connaisse ont été des chrétiens sans faille. Et les individus sont bien les derniers à qui je tiendrai rigueur de ce qui est une calamité millénaire. Alors, ça semble un peu contradictoire, hein ? Mais, qu'à cela ne tienne, comme dit Tilliette, hein, sa pensée est cisaillée de contradictions. Mais, c'est vrai, quoi, hein ? Vous lancez une idée, vous lancez une autre, ça fait tilt, c'est contradictoire, ça c'est votre affaire, hein ? Trouver la logique ou pas la logique, c'est pas ça, hein ? Il faut avoir la liberté de penser, de dire ce qu'on pense. Voilà, et même ma formule pour cela, c'est que l'antéchrist est la logique nécessaire dans l'évolution d'un vrai chrétien. En moi, c'est le christianisme qui triomphe de lui-même en se dépassant. Voilà, il est un chrétien accompli, puisqu'il dépasse le christianisme en lui-même. Lou Salomé dit que toute la philosophie et la poésie de Nietzsche ne consistent qu'à s'expliquer lui-même à lui-même. Qu'il était d'une grande rigueur introspective, si on veut, et qu'il croyait que finalement, son âme, c'était l'âme du monde. Donc, Lou Andreas Salomé aussi a des formules assez flèches. Et il dit, Nietzsche, il s'expliquait avec lui-même, et puis il croyait que c'était universel. L'avant-propos de l'Antéchrist... Ce livre est réservé au plus petit nombre, dont nous ne sommes sans doute pas. Peut-être même de ce nombre, aucun n'est-il encore né. Donc il écrit pour le millénaire suivant. Ce pourraient être ceux qui comprendront mon Zarathoustra. Comment me serait-il permis de me confondre avec ceux pour qui, dès aujourd'hui, naissent des oreilles attentives ? Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais vous voyez que permis est mis en italique et défendu, là, vers le milieu du texte, est mis aussi en italique. Permis et défendu, c'est toujours une antinomie qui vient chez Nietzsche. Donc c'est l'après-demain seulement qui m'appartient. Certains naissent posthumes. Belle formule. Moi, je nais posthume. Je naîtrai après ma mort. On me comprendra après ma mort. Et Sloterdijk, je ne sais pas si vous vous souvenez, disait que lui avait compris Nietzsche, mais que bon, il était 3, 4, 5 siècles en avance sur tout le monde, quoi, hein, parce qu'il avait compris Nietzsche. Et alors il parle souvent de la hauteur d'âme, des horizons lointains, une expérience tirée des sept solitudes. Alors au paragraphe 10, il explique que la philosophie allemande est corrompue par le sang de théologiens. Tous les philosophes allemands, et c'est pas faux, hein, ceux qu'on a étudiés, ils ont tous été fils de pasteurs ou pasteurs candidats, hein, les Schelling, les Hegel, etc. Ils ont souvent été au séminaire. Le pasteur protestant est l'aïeul de la philosophie allemande. Le protestantisme est son péché originel. Lui-même, hein, trois générations d'un côté et deux de l'autre, on ne fait pas mieux, hein. Définition du protestantisme, l'hémiplégie du christianisme et de la raison. Voilà, l'hémiplégie du christianisme d'un côté et de la raison de l'autre. Il suffit de prononcer le nom de Tübinger Stift, le séminaire de Tübingen, hein, où ont été Hegel, Schelling et Hölderlin, pour saisir tout ce que la philosophie allemande est au fond, une théologie dissimulée. Et puis après, il parle de Kant qu'on a accueilli avec joie, parce qu'il n'avait pas l'air d'être un théologien. Il n'avait pas été au séminaire, hein, donc il ne descendait pas de... Il était un peu piétiste dans sa jeunesse, mais enfin bon. Mais les trois quarts des autres philosophes sont des fils de pasteurs et des maîtres d'école et d'organistes. Hein. Mais Kant pas. Ah, on va donc avoir une vraie révolution, laïcarde. Eh bien, pas du tout, il revient avec les deux erreurs les plus manifestes, les plus malfaisantes, c'est qu'il y a un monde qui existe, et une morale qui existe. Voilà. Critique de la raison pure, un monde existe. Hein. Bien sûr, c'est l'apparence, il y a le noumen et tout ça, mais enfin, il y a un vrai monde, quoi, qu'on peut étudier scientifiquement. Ça, c'est une erreur, quoi. Et il y a une morale. Il y a un bien et un mal. Autre erreur malfaisante dont la philosophie doit se débarrasser. Le paragraphe 35 de l'Antéchrist, vous décrit très bien, je crois, ce qu'il pense de la croix. Voilà, Jésus sur la croix, ben, il était là, quoi. Tranquillement, résigné. Il n'était pas du tout là pour racheter les hommes, mais pour montrer comment on doit vivre sans se préoccuper de la mort. C'est la pratique qu'il a léguée à l'humanité. Son comportement devant les juges, devant ses sbires, devant les accusateurs, devant les calomnies, les sarcasmes, son comportement sur la croix, il ne résiste pas, il ne se défend pas, il ne fait pas un geste qui puisse détourner de lui le pire. Il supplie, il souffre, il aime avec ceux et en ceux qui lui font du mal. Ça, c'est un peu bouddhiste. Parfois, il rapproche Jésus un peu de Bouddha qu'il a connu à travers Schopenhauer et tout ça. Mais voilà. Et puis alors, je crois qu'il confond un peu la parole du centurion avec la parole du bon larron. Mais voilà, quand même. Hein. Cet homme était vraiment fils de Dieu. Ben oui, nous sommes tous fils de Dieu, hein. Tous fils de Dieu, donc nous irons tous au paradis, il n'y a pas de problème. Hein. Et si tu sens que tu es fils de Dieu, ben voilà, tu es déjà au paradis. Alors je vais terminer en lisant cette page conclusive de Tillyet, qui est quand même assez terrible, hein, et qui montre un peu dans quel type de folie Nietzsche était arrivé. À Turin, Nietzsche a trouvé une cité seigneuriale et mélancolique, selon son cœur du moment. C'est là qu'il a eu sa première crise de folie. Hein. La lettre à Karl Fuchs du 18 décembre 88 peut encore faire croire à une plaisanterie. Après que le vieux Dieu a abdiqué, c'est moi qui désormais gouvernerai le monde. Mais les courbillets incohérents du début de janvier 89, signés alternativement Dionysos ou le crucifié, il signe lui-même le crucifié, hein, ou Dionysos, une alternance sur laquelle on peut épiloguer, ne laisse plus place au doute, et surtout la lettre à Jacob Burckhardt, signée Astu, qui mélange les transmigrations et la fonction divine de substitution. Très étrange l'apostrophe impromptue au passant, en leur mettant familièrement la main sur l'épaule, donc en Italie, il rencontre un passant dans la rue, il lui met la main sur l'épaule et il dit « Siamo contenti ?»« Ça va ? Tout va bien ? On est content ? Oui ? Hein ?»« Sono Dio ?» Je suis Dieu. Sono Dio. Ho fatto questa caricatura. Voilà, j'ai fait cette caricature. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le monde, ou bien c'est l'autre, ou c'est lui, on ne sait pas. Voilà, je suis Dieu, j'ai fait la caricature. Un autre post-scriptum déclare, j'ai mis Caïphe dans les chaînes. Moi aussi, l'an dernier, j'ai été crucifié de très pénible façon par les médecins allemands. Ainsi s'achève sur une note lamentable le processus d'identification avec l'adversaire, comme dit Jaspers, identification avec l'adversaire, qui en donne Jaspers pour le temps de la lucidité même, hein, des preuves convaincantes étayées d'assertions de Nietzsche. Prévenu du brusque délabrement intellectuel de son ami à Turin, Overbeck, donc ce théologien athée, là, à court de Bâle, c'est lui qui est resté vraiment son ami jusqu'à la fin, pour ramener le malade. Il le trouve recroquevillé, pelotonné sur un coin de divan, mais calme et apparemment grave et lucide, parlant à voix basse, de la tâche très lourde qui lui incombait en tant que remplaçant de Dieu.